Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Que reste-t-il aujourd'hui du HDP ? Le tout jeune parti pro-kurde avait fait sensation aux élections de 2014-2015 en séduisant des millions d'électeurs grâce à son leader charismatique âgé de 44 ans, Selahattin Demirtas. C'est pour tenter de répondre à cette question cruciale que le mouvement se réunit dimanche prochain à Ankara, car il a désormais bien du mal à se faire entendre. Dans un climat de guerre entre les forces turques, le PKK et son émanation syrienne, le PYD à Afrin, 9 de ses députés, mais aussi des dizaines de maires et des milliers de militants sont aujourd'hui en prison. Et c'est le reportage d'Anne Andlauer à Istanbul.
C'était il y a 3 ans et demi, un soir d'août 2014. Les Turcs élisaient pour la première fois leur président de la République. Sur l'écran de télévision, à côté du vainqueur, Recep Tayyip Erdogan, un autre visage, jeune et souriant. Celui de Selahattin Demirtas, candidat d'un parti fondé 2 ans plus tôt, le HDP, Parti démocratique des peuples. Selahattin Demirtas arrivait 3e ce soir-là avec 9,7% des voix, puis 13% au scrutin suivant, les législatives de juin 2015. Un exploit pour une formation plaçant la question kurde au centre de son programme. C'était hier et en même temps à des années-lumière, à une époque où l'État turc tenait des pourparlers de paix avec le chef du PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan, un groupe classé terroriste, et où le HDP servait de médiateur, rappelle Ismet Akça, politologue.
Il y avait un contexte historique qui a permis l'émergence du HDP, une certaine atmosphère ouverte à la négociation, à une solution politique aux problèmes kurdes.
La situation aujourd'hui est radicalement différente. La guerre avec le PKK a repris à l'été 2015, et le HDP est devenu quasiment inaudible, boycotté par les médias, considéré par le pouvoir comme une vitrine du PKK, pourchassé par la justice. 9 de ses 59 députés sont en prison pour terrorisme, dont Selahattin Demirtas, comme des dizaines de maires et des milliers de militants. 26 000 au total, selon des sources au HDP. Pour le politologue Ismet Akça, le sort de ce parti était scellé dès lors que le pouvoir a fait le choix des armes.
Le président Erdogan s'est aperçu que la manière douce et les négociations ne lui faisaient pas gagner de voix. Au même moment, les Kurdes ont commencé à gagner du terrain en Syrie. C'est à partir de là que cette atmosphère de compromis a laissé la place à un nationalisme et un militarisme assez radical. Et le HDP s'est retrouvé paralysé.
La tenue du 3e congrès du HDP ce dimanche à Ankara, la capitale, se tient donc dans un contexte tendu. D'autant plus que l'armée turque mène actuellement une offensive contre Afrin, région du nord de la Syrie contrôlée par le PYD, cousin syrien du PKK. En Turquie, le HDP est la seule formation parlementaire qui s'oppose à l'intervention. Cela lui a valu d'autres arrestations, y compris de militants qui préparaient le congrès de dimanche. Cengiz Uzuner, un dirigeant local du parti.
Cette semaine encore, certains de nos membres qui distribuaient des tracts pour le congrès ont été placés en garde à vue. Ça n'empêche pas d'autres membres d'aller tracter à leur place. Même chose avec les pancartes, les affiches sur les façades de nos bureaux qui sont arrachées. Ces pressions ne nous découragent pas. Nous sentons une colère qui monte un peu plus chaque jour. Et nous essayons de canaliser cette colère, de la mobiliser.
S'il reconnaît une certaine désorganisation liée aux arrestations de cadres et de députés HDP, Cengiz Uzuner soutient que le parti conserve ses capacités de mobilisation.
Il y a 2 mois, Selahattin Demirtas s'était jugé à Ankara. Nous avons fait face à une pression incroyable. Il y a eu des gardes à vue dans chacun des 39 arrondissements d'Istanbul. Le jour de l'audience, notre objectif était d'envoyer 500 personnes d'Istanbul à Ankara. 1800 personnes sont venues, la plupart avec leurs propres moyens de locomotion. Conclusion, la répression augmente la résistance. Ou, comme dit notre président, si la peur est contagieuse, le courage l'est aussi.
Lors du congrès de dimanche, Selahattin Demirtas, dont le charisme expliquait en grande partie le succès du HDP, a choisi de ne pas se représenter, s'estimant incapable de diriger la formation depuis sa cellule de prison. Le HDP doit donc se trouver un nouveau leader pour le conduire aux élections de 2019, élections locales, législatives et présidentielles. Selon le politologue Ismet Akça, le HDP n'a pas forcément perdu tout son électorat, dont une partie est constituée de Kurdes qui votaient auparavant pour le parti au pouvoir.
La grande inconnue, c'est de savoir combien de ces Kurdes conservateurs resteront fidèles au HDP, sachant que ces conservateurs sont le groupe qui peut changer d'avis le plus vite en cas de contexte violent, et soit se tourner vers l'AKP au pouvoir, soit s'abstenir. La deuxième option est la plus probable, car la politique actuelle du pouvoir lui a mis à dos une partie des électeurs kurdes.
Reste que beaucoup de choses peuvent encore se produire d'ici 2019 et compromettre davantage les chances du HDP. Surtout, il n'est pas dit que le parti puisse faire campagne, amputé d'une bonne partie de ses élus. Si 9 sont actuellement en prison, dont 5 déchus de leur mandat, 15 autres ont été condamnés et pourraient les rejoindre d'un jour à l'autre. 3 élus sont par ailleurs réfugiés en Europe. Ishar Özsoy, un député HDP, redoute que 2018 soit une année noire, une de plus pour sa formation.
Plus les élections approcheront, plus l'État devrait faire en sorte qu'il ne reste plus un seul député HDP en liberté. L'objectif est de détruire toute opposition avant les élections de 2019. Erdogan ne nous voit pas comme un adversaire politique, mais comme un ennemi à abattre.
Le pouvoir dispose pour cela d'une arme redoutable, l'état d'urgence, décrété après la tentative de putsch de juillet 2016, et dont il est quasiment sûr qu'il sera prolongé jusqu'au scrutin présidentiel de novembre 2019.
Surpopulation, vétusté des lieux, radicalisation islamiste, manque de surveillants, voilà les maux dont souffrent les prisons françaises et ce ne sont pas les seuls. Le personnel pénitentiaire était en grève en janvier dernier après l'agression de 3 gardiens par un détenu radicalisé à Vendin-le-Vielle dans le Nord. Les grévistes ont finalement obtenu que des ailes spéciales soient bientôt réservées aux terroristes. Plusieurs pays européens ont déjà opté pour cette solution, dont le Royaume-Uni très récemment. Mais la décision là-bas est toujours controversée. Marie Billon.
L'immense maison d'arrêt de briques rouges, HMP Frankland, accueille depuis son ouverture en 1980 certains des plus dangereux criminels britanniques. Située à Durham, dans le nord de l'Angleterre, la prison est dite de catégorie A. Et depuis le mois de juillet, elle est devenue la première à avoir des quartiers exclusivement réservés aux terroristes. 2 autres ailes du même type doivent être ouvertes dans d'autres établissements pénitentiaires dans un futur proche. En tout, 28 des individus les plus radicalisés et les plus dangereux y résideront. Le gouvernement britannique a pris la décision d'isoler les terroristes pour éviter la contagion des idées extrémistes. L'auteur de l'attentat de Westminster, Khalid Massoud, se serait converti soudainement, dit la presse, lorsqu'il était à la prison de Lewes, dans l'est de l'Angleterre. Quant au meurtrier du soldat Lee Rigby en 2013, Michael Adebolajo, il a été récemment transféré de la prison de Belmarsh à celle de Frankland, car les gardiens estimaient qu'il tentait de convertir d'autres prisonniers. Le ministère de la Justice refuse de préciser qui est ou qui sera détenu dans ces quartiers ultra sécurisés, mais 4 critères sont déterminants. L'individu a planifié des attaques terroristes dans le passé, il a tenté de pousser d'autres personnes à perpétrer un attentat, il pose une menace pour la sécurité nationale et enfin, il a mis en cause la sécurité au sein de son établissement. Mais ces unités ne plaisent pas à tout le monde. Pour un syndicat du personnel pénitentiaire, cette séparation risque de créer une version britannique de Guantanamo, la très controversée prison militaire américaine. D'autre part, regrouper ensemble des criminels qui ont la même idéologie est une idée dangereuse, avertit l'organisation. L'expérience a déjà été faite dans les années 80 en Irlande du Nord, notamment dans le fameux bloc H de la prison du Maze, réservé aux terroristes de l'IRA. Ils avaient réussi à obtenir un statut particulier, celui de prisonnier politique. Sans parler des luttes de pouvoir qui peuvent, selon l'association, être encore plus féroces dans ces milieux fermés.
Jesus Christ was a mushroom. C'est une révolution verte et écologique. Des agriculteurs bio et des scientifiques unissent leurs forces depuis 2 ans pour trouver des alternatives aux techniques de rendement utilisées dans l'agriculture conventionnelle. Tous se sont réunis au sein d'un réseau, Okenet Arable. 12 États membres en font déjà partie et de belles idées germent dans les têtes des paysans belges, notamment dans celle de Thierry Beaucarme. Ses champs de poireaux et de choux s'étendent non loin de Mouscron. Alice de Batty est partie à sa rencontre.
Je vois que tout est trempé, qu'est-ce qu'on fait ?
Oui, ben je pense que si on veut voir des cultures sur le champ, il nous faudra des bottes. Et même en bottes, il faudra faire attention de ne pas perdre ses bottes collées dans la boue.
C'est donc avec des chaussures adéquates, prêtées par M. Beaucarme, que nous faisons le tour du propriétaire. Et l'on commence par sa serre remplie de tomates. C'est là où nous attend Livon Delano. Il travaille chez Inagro, le centre de recherche qui collabore avec les agriculteurs belges. Il insiste sur la nécessité d'unir les forces européennes au sein d'un même réseau.
On voit des grandes différences de rendement dans des différentes cultures entre agriculteurs. Donc ça indique qu'il y a encore assez pas mal de possibilités pour améliorer les rendements des différentes cultures biologiques.
Augmenter le rendement des champs bio, c'est une manière de répondre à une demande de plus en plus importante dans l'Union européenne. Chaque groupe de chercheurs et d'agriculteurs a présenté un projet pour remplir cette mission. Et pour Inagro et Thierry Beaucarme, c'est une alternative au glyphosate. Exit le chimique, place au mécanique.
Sur une terre de céréales, de blé d'été, semée au mois de novembre, on a fait des essais de désherbage avec différents outils pour voir quelle était la meilleure façon de désherber, donc d'enlever les mauvaises herbes qui ont poussé en même temps que le blé, et de voir quel était le meilleur résultat.
Thierry utilise déjà ses machines dans ses champs. Il nous fait visiter son garage.
La principale, c'est la RC-tri que vous voyez ici. Donc c'est une RC avec des dents vibrantes qui arrachent les mauvaises herbes en surface et qui permettent de les faire sécher par le vent et le soleil.
Et alors j'en vois plein d'autres derrière.
Plein d'autres derrière, donc pour chaque culture a sa machine, disons. Donc les poireaux, ils ont leur buteuse, les choux et les céleris, ils ont leur herse.
Donc en fait, c'est les différents désherbants naturels voilà, pour chacune des plantations.
Donc,
quoi.
L'investissement est lourd, mais on le fait une seule fois au niveau des machines. Mais annuellement, les coûts sont très faibles.
D'autres idées ont germé dans la tête des agriculteurs européens. Les Anglais ont par exemple inventé une méthode de calcul pour évaluer le taux d'azote présent dans le sol, un indice qui permet de mesurer la fertilité des terres sans utiliser d'engrais. Les Hongrois ont eux proposé d'évaluer la productivité des céréales à l'aide d'un drone. Et toutes ces expériences se retrouvent sur un site farmknowledge.org. Une source d'informations extrêmement précieuse selon Thierry.
C'est un échange d'informations entre générations, mais aussi entre pays et entre fermiers de différents pays. Et c'est ça qui fait la richesse du réseau Okenet Arable, que l'on puisse échanger sans avoir une idée de concurrence qui viendra par la suite, puisque toute information est une richesse.
Une richesse, une connaissance indispensable pour l'évolution du bio en Europe. Selon l'Association internationale d'agriculture biologique, à la base de cette initiative européenne, plus un agriculteur est expérimenté, plus la différence de rendement avec l'agriculture conventionnelle est faible. L'espoir d'Okenet est de créer une sorte de bible du bio qui permettra à cette génération et aux suivantes de faire de l'Europe une union plus verte.
How are you,
Mr. President? It's great to see you. How have you been?
Great to see you. Great to see you.
Hello. How are you? Very honored to meet you. Thanks very much for being here.
Ladies and gentlemen, my first message is that France is back. France is back at the core of Europe.
Du Choose France au Grand Raout de Versailles devant 140 grands patrons étrangers, au France is back devant le Forum économique de Davos, le président Macron ne ménage pas ses efforts pour vanter l'attractivité économique retrouvée de la France. Et tout cela, en anglais s'il vous plaît, une attractivité qui se mesure notamment par le volume d'investissements étrangers dans un pays et par le rayonnement économique mondial qui est reflété par ses propres investissements à l'étranger. Alors, la France revient-elle vraiment de loin quand on la compare à ses voisins européens ? C'est ce qu'on va voir avec Daniel Vigneron. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Alors, sait-on vraiment mesurer l'attractivité d'un pays ?
Vous avez raison de poser la question, Catherine. On a tendance à considérer que si des investisseurs étrangers mettent de l'argent dans un pays, c'est que l'environnement économique de ce pays permet de prévoir des profits substantiels. Mais l'investissement direct étranger, IDE en abrégé, peut prendre la forme d'une implantation d'entreprise ou encore d'un rachat ou d'une prise de participation au capital. Il reflète donc également l'attractivité d'une entreprise dans le cadre d'une stratégie globale de marché. Par ailleurs, les IDE ne sont pas forcément synonymes de création d'emplois. Par exemple, qui peut affirmer que la prise de contrôle des chantiers navals STX par l'italien Fincantieri va se traduire par des emplois supplémentaires en France? L'IDE peut même entraîner des suppressions d'emplois. En outre, si les investissements étrangers traduisent un intérêt pour le pays d'accueil, ils impliquent aussi que les décisions concernant l'entreprise se prennent à l'étranger. En fait, le poids international d'un pays se mesure surtout par sa capacité d'investir lui-même à l'étranger.
Et la France attire beaucoup d'investissements étrangers ?
Tout d'abord, il faut regarder le montant du capital étranger présent dans le pays à une date donnée. Fin 2016, avec 700 milliards de dollars investis sur son territoire, la France se situait à la 5e place européenne. Le Royaume-Uni est largement en tête avec près de 1400 milliards, suivi de l'Irlande, des Pays-Bas et de l'Allemagne, qui, avec 790 milliards investis, se situe un peu au-dessus de l'Hexagone. Donc, compte tenu de la taille de son économie, la France n'est pas un pays spécialement attirant.
Oui, on le dit depuis plusieurs années déjà, Daniel, que la France n'est plus très attractive.
Si l'on compare les périodes 2005-2010 et 2011-2016, les grands pays d'Europe ont tous vu baisser leurs entrées d'investissement étrangers. Mais le recul n'a été que de 21% en ce qui concerne la France, contre une baisse de 40% pour le Royaume-Uni et de près de 50% pour l'Allemagne. En fait, la période récente a été marquée par l'explosion des investissements étrangers en Irlande, qui ont été multipliés par 9. Car ce petit pays, très marqué par la crise financière de 2008, on le sait, a su rebondir de façon spectaculaire en multipliant notamment les cadeaux fiscaux. Notons que l'Espagne, malgré l'impact de la crise, continue d'accueillir davantage d'investissements étrangers que la France. Cette dernière, en flux d'investissements de 2011 à 2016, n'occupe toujours que la 5e place européenne, bien qu'elle soit passée devant l'Allemagne.
Et quid des investissements de la France à l'étranger ?
Elle fait bien meilleure figure dans ce domaine. À 1260 milliards de dollars fin 2016, elle occupe la 7e place mondiale et la 4e place européenne derrière le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Allemagne. Et son retard sur le Royaume-Uni n'est cette fois que de 180 milliards. Surtout, depuis 2005, la France a multiplié par 2 son IDE à l'étranger contre une hausse de 60% pour l'Allemagne et de seulement 16% pour le Royaume-Uni.
Que représente finalement l'investissement étranger pour l'emploi ?
Une faible part dans les grands pays. L'IDE a créé 17 000 emplois en 2016 en France, soit à peine 9% du total des 191 000 emplois créés cette année-là. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que l'investissement étranger représente une faible part du total des investissements intérieurs des grandes économies. Sur la période 2012 à 2016, 5,5% en France et seulement 4% en Allemagne. En revanche, l'IDE a représenté 36% de l'investissement aux Pays-Bas et plus que la totalité de l'investissement en Irlande et au Luxembourg. Ce qui signifie que dans ces pays, les capitaux étrangers prennent la place des capitaux nationaux.
Daniel, les politiques menées ont-elles vraiment un impact sur l'investissement étranger ?
Selon que la fiscalité est favorable ou non aux entreprises, on pourrait le penser. Mais si l'on prend la France, on constate que le pays a davantage attiré de capitaux sous le quinquennat du socialiste Hollande, 162 milliards de dollars, que sous celui du conservateur Sarkozy, 130 milliards.
Et pour terminer, quelles sont les tendances les plus récentes en Europe ?
Selon les chiffres préliminaires que vient de publier la CNUSED pour 2017, on observe un quasi-doublement, à 50 milliards de dollars, des investissements étrangers en France, qui prend ainsi la 3e place derrière les Pays-Bas et l'Irlande. En revanche, sans doute à cause du Brexit, l'investissement au Royaume-Uni s'effondre à 20 milliards, le plus mauvais résultat depuis 2 décennies.
Et c'est vraiment une bonne nouvelle pour la France, Daniel ?
Oui, car un plus de 10% sur l'investissement total, c'est bon pour une croissance qui est déjà en phase d'accélération. En revanche, le rapport pessimiste qui vient d'être révélé à Londres sur les conséquences négatives du Brexit semble être confirmé par la plongée de l'investissement étranger outre-Manche.
Daniel Vigneron de myeurope.info. À la semaine prochaine, Daniel.
À bientôt, Catherine.
À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur rfi.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de RFI dans quelques instants, le journal.